Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Hey, salut chers auditeurs, bienvenue ou re-bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augure avec votre hôte Frédéric. J'espère que vous portez bien et que vous êtes prêts à votre dose de crimes tordus et d'événements traumatisants. Le cas que je vous présente aujourd'hui, il fait pas dans la dentelle, je dois avouer. C'est un cas qui m'a vraiment intéressé. Dès que j'ai entendu parler, il y a de ça 3 semaines environ, il est monté en haut de la liste de tous les dossiers que je veux faire ou ceux que les auditeurs m'ont suggéré. J'ai commencé à écrire dès que j'ai entendu parler. Cette histoire-là m'a particulièrement intéressé parce que c'est un dossier où la drogue est assez prédominante et que le fucké dans l'histoire est accro ou dissociatif. C'est ça, moi je suis rendu clean depuis un bon bout maintenant, mais je suis un ancien polytoxicomane et je dois avouer que les dissociatifs, ça a toujours été mes préférés. Bon, une petite introduction aux drogues dissociatives pour vous mettre dans le contexte de cette histoire-là. La famille des drogues dissociatives est vraiment petite. Il y a 3 substances qui appartiennent. Le PCP, la kétamine et le dextrométhorphane. Il y aurait aussi la salvia qui serait considérée comme un dissociatif, mais elle n'a pas le même effet sur le cerveau. Elle agit comme un opiacé. Et les drogues dissociatives, eux, agissent d'une manière tout à fait différente. Elles atteignent le bon fonctionnement du glutamate dans le cerveau ainsi que la dopamine. Bon, c'est un peu du charabia, mais en d'autres mots, ça atteint les sens tels que l'altération de l'ouïe, de la vue, sensation de flottement, à plus forte dose, distorsion de la réalité, perte de mémoire, et dans des cas extrêmes, sensation de voyage astral, et aussi, je sais pas le terme exact en français, mais l'impression de mourir et que l'esprit quitte le corps, là. Comme vous pouvez vous imaginer, n'importe quel individu qui est sensé, respectable et sain d'esprit peut très rapidement perdre le contrôle de son environnement et faire bien des conneries après la consommation dissociative. Et dans le dossier que je vous présente aujourd'hui, le gars, c'était un vrai enculé déjà avant de commencer à consommer des dissociatifs. Donc, ça va vraiment mal. Bonjour la psychose toxique. Les événements que je vais vous décrire se sont déroulés dans la ville de New York. Ils ont débuté le matin du 11 février 2011 et se sont terminés le lendemain. Ça a été 28 heures de pure terreur. Personne n'est en sécurité. Car un fou dangereux courait les rues attaquant quiconque qui avait le malheur de croiser sa route. Un simple vendeur de cocaïne du nom de Maxim Gelman, qui, après les événements, se fera nommer Mad Max, une vraie face de vidange. On se dirige plus précisément à Sheephead Bay, une communauté avec un faible taux de criminalité, se trouvant au sud de Brooklyn, avec une population d'environ 174 000 habitants en 2018. La majorité des habitants sont soit d'origine slovaque ou chinoise. Sheephead Bay, beau petit coin. C'est là que Maxim Gelman grandit une partie de sa vie. Il est originaire d'Ukraine. Il a vu le jour le 31 mai 1987. Par la suite, son père a immigré vers les États-Unis en 1994. Et c'est 2 ans après que Maxim, alors âgé de 6 ans, accompagné de sa mère, iront rejoindre le paternel. Au fil du temps, la relation de ses parents se ternira et son père retournera en Russie où il sera tué. Maxim grandira à Brooklyn en habitant avec sa mère et son beau-père, avec qui il n'a jamais eu une bonne relation. Bon, en vieillissant, Maxim, je pense qu'il n'a jamais trouvé sa place. C'est un bizarre, déplaisant. Il n'a pas d'amis, vraiment. Et il n'y en a pas plus maintenant. Donc, c'est ça. Étant rejeté, pas d'amis, pas heureux, il a commencé à mentir, il se rend intéressant. Et a été attiré par des activités extrêmes, telles que le skateboard quand il était jeune adolescent. Ça, j'ai pas eu trop de renseignements à savoir s'il était talentueux dans ce domaine. Mais plus tard, à l'adolescence, il a lâché le skateboard et il est tombé dans le monde des graffitis. Ça, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Pas mauvais, mais pas vraiment de style personnel. Et ce qui m'a pas surpris, semble-t-il qu'il ne respectait pas les lois non écrites dans le monde mystérieux des graffitis. Et une de ces lois non écrites est que si t'as pas le talent nécessaire pour couvrir une œuvre qui est déjà sur un mur fait par un autre artiste et que tu peux pas faire mieux, ben tu t'abstiens de faire un graffiti sur cette œuvre. Et également, ben c'est ça, il respectait pas ça. Et de plus, je suis pas surpris non plus, mais il signait Max. Ouais, ça, faut vraiment être épais. tu veux pas signer rien qui ressemble à ton nom au cas où tu te fais arrêter. C'est quand même une activité légale. Parce que Jalman, lui, il est trop prétentieux, faut qu'il signe son nom. Sûrement qu'il est dans le monde des graffitis juste pour se faire reconnaître, puis essayer de se faire des amis. Puis ça, c'est quand même un milieu que tu restes anonyme. Même si vous connaissez rien au monde des graffitis ou que ça vous intéresse pas, c'est juste pour vous montrer un peu le genre de personne, le genre d'individu à qui on a affaire. Quelqu'un qui a pas de respect, qui est déplaisant, qui est mythomane, en tout cas, en voie de le devenir. Il ment, il aime s'impressionner les autres, donc il commence à consommer de la drogue. Et il commence à faire la revente de substances illicites aussi, sûrement pour impressionner la galerie et la gente féminine. Mais d'après plusieurs de ses connaissances, ça a toujours été juste un petit revendeur qui faisait ça pour payer ses doses. Et Gentleman aimait bien consommer du PCP, comme je l'ai dit, un dissociatif, mais qui est très traître parce que le... si tu tombes en psychose, ça peut durer des heures et des heures et des jours si tu continues à consommer. Dans sa jeune carrière de criminel, il a quand même cumulé quelques charges. Une dizaine environ, la plupart sont reliées au graffiti et au vandalisme. Il y a une charge de substances prohibées, ça c'était dans les dernières charges qu'il y a eu avant les événements qui suivent. Et jusqu'à ce moment, il a acquéri une réputation de fouteur de troubles et les gens l'évitaient de plus en plus. Vraiment, je vous dis, un charmant jeune homme. Bon, à partir de ce point dans l'histoire, je vais appeler Maxime Gelman, Gelman. C'est pas tout le monde qui va comprendre le terme, mais je trouve que ça fait de bien dans l'histoire. On retourne en février 2011. Monsieur Gelman est maintenant âgé de 23 ans et il a vraiment abusé de ses produits dans les derniers jours. PCP, cocaïne, il a dormi sa corde à linge. Bon, je crois pas que le terme dormir s'applique vraiment pour Gelman, mais en tout cas, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est brûlé, fripé. Il est mêlé ben raide. Il commence à être paranoïaque. Il s'imagine que la DIA est après lui, qu'il... l'ont pris en filature et que c'est juste une question de temps avant qu'il procède à son état d'arrestation. Rendu à un niveau paranoïaque extrême, Gelman se dit que la meilleure chose à faire, c'est de quitter la ville, se faire oublier. Mais pour ça, il a besoin de se rendre chez sa mère, aller chercher son passeport et quelques effets personnels, ainsi que la voiture de maman. Et il décide de faire ça sur le champ à une heure tout à fait convenable. 5h du matin, il décide de débarquer en sauvage chez sa mère, qui se nomme Svetlana. Svetlana avoue que son fils est vraiment une sale tête. Et bien sûr, comme toute mère raisonnable, elle lui empêche de prendre les clés de sa voiture et lui dit qu'il n'est pas en état de conduire. Donc, Gelman, comme un vrai bébé gâté, qui a pas ce qu'il veut, décide de péter une crise, une dispute s'ensuit. Et en entendant toute cette commotion, le conjoint de Svetlana, qui se nomme Alexander Kuznetsov, il est âgé de 54 ans, décide de venir voir ce qui se passe. Et bien sûr, c'est le beau-père que Gelman déteste, donc Gelman décide de tourner sa haine vers Alexander. La dispute qui s'ensuit va très vite au drame quand que Gelman empoigne un couteau, un petit couteau de cuisine, et commence à poignarder Alexander à plusieurs reprises. Ensuite, il empoigna une fourchette à viande et continua à poignarder le pauvre Alexander. Gelman lui a fait subir un total de plus de 50 blessures à l'arme blanche. Pendant l'attaque, Svetlana, qui fut témoin de toute la scène, paniquée et terrorisée, communiqua avec les services d'urgence. Envahi par la peur, il était très dur de comprendre ses propos. Mais on pouvait clairement entendre des gens se disputer en arrière-plan. Les paroles de Svetlana ont été faciles à discerner seulement à deux moments dans l'appel. Une fois, elle s'est écriée « Il va te tuer !» Et avant de raccrocher, elle a crié « Il va me tuer !» Heureusement, Svetlana a subi aucune blessure, était saine et sauve à l'arrivée des secours. Mais Alexander, lui, n'a pas eu cette chance. Les policiers l'ont retrouvé sans vie étendu dans une mare de sang. Et sa dépouille se trouvait entre la chambre à coucher et la salle à manger. Svetlana, sans perdre de temps, prenant alors au policier qu'elle connaissait très bien l'agresseur. C'était son fils unique, Maxime. Ayant très peu d'informations à ce stade de l'enquête, les policiers ne s'inquiétaient pas trop outre mesure pour la sécurité des citoyens. Croyant à un cas de violence conjugale, le scénario était du déjà vu. Un jeune homme a une altercation avec son beau-père avec qui il ne s'entend pas bien. Personne ne pouvait prévoir les actions d'un illuminé du cerveau comme Gelman. car après avoir lâchement assassiné son beau-père, Gelman, dissocié du cerveau, se dit que son meilleur plan est de prendre la fuite. Pendant que sa mère paniquée est au téléphone avec les secours, Gelman décide de recueillir quelques effets personnels et décide de prendre la fuite avec la voiture du couple, que je pense pas que je l'ai dit, c'est une voiture de marque Lexus. Environ 3 heures s'écoulent et alors qu'il est 8h12 du matin, alors que Gelman est au volant de la Lexus, il heurtera une brigadière d'école qui se nomme Amandacia Nakalaidakis, qui était âgée de 41 ans à l'époque. Elle fut transportée au centre hospitalier le plus proche et son état fut stabilisé. Une chance qu'elle n'était pas en train de faire traverser l'intersection à des enfants. Cette histoire-là aurait pu être pas mal pire qu'elle l'est déjà. Gelman a expliqué après qu'à un certain point, il était sur le chemin de la sortie pour New York, mais qu'il a décidé de rebrousser chemin. Les raisons, il n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Je sais qu'il avait oublié son passeport. C'était son but d'aller en République Dominicaine ou je sais plus trop où. Mais ce plan-là était pas dû pour marcher parce qu'il s'aurait fait arrêter à l'aéroport direct. On peut dire que ce serait vraiment se lancer dans la gueule du loup, mais avec Gelman, tout est possible et il a l'air assez attardé. Donc Gelman, sa raison de retourner à New York, je crois que c'est plus une jeune femme du nom de Yelena Bulchenko, qui est âgée de 20 ans au moment des faits. Yelena est décrite comme une personne intelligente, drôle, sensible, compassionnée. Et elle est en couple avec un dénommé Gérard Honig. Gelman et Yelena étaient simplement des amis. Gelman, sûrement dû à sa personnalité de merde, n'a jamais eu de succès avec les agentes féminines. Et dans son monde de fabulation et de mensonges, on était venu à se faire l'idée qu'il se passait beaucoup plus entre les deux que juste de l'amitié. Mais c'était vraiment pas réciproque. Puis Gelman, ça a changé en obsession. Il arrêtait pas de la harceler. Il allait chez eux, cognait à sa porte en criant. Il arrêtait pas de l'appeler, de la texter. C'est ça. Un esti déplaisant. On dirait un vrai cas d'incel en puissance. Si vous savez pas c'est quoi un incel, allez écouter, c'est un de mes premiers épisodes sur Alex Minassian, une histoire qui est arrivée à Toronto. Revenons à nos moutons. C'est ça, Gelman faisait une obsession avec Yelena et il y a beaucoup de gens qui ont témoigné que les comportements et actions qu'il avait envers elle démontraient qu'il y avait vraiment matière à s'inquiéter. Environ 5 heures se sont écoulées depuis la mort de Alexander. Il est aux environs de 10 heures du matin. Et Maxime Gelman se gare alors devant le domicile familial de Yelena, qui habite à quelques pâtés de maison seulement d'où il avait tué son beau-père. Mais à ce stade de la journée, seulement les forces de l'ordre étaient au courant que Gelman avait tué son beau-père. Yelena ne se trouvait pas chez elle. Il y avait seulement sa mère Anna qui se trouvait au domicile. Et à l'arrivée de Gelman, elle était occupée avec une conversation téléphonique. Avec sa tête de 2 watts puis les yeux même pas dans le même socket, c'est sûr que la mère de Yelena, elle voulait pas y dire où se trouvait sa fille. Donc, malheureusement, Gelman sortira un couteau et commencera à la torturer pour essayer de soutirer des renseignements au sujet de sa fille. Mais voyant qu'Anna ne cracherait jamais le morceau, il décida de l'achever. D'après la personne qui était au bout du fil et discutait avec Anna avant que Gelman arrive, elle put être témoin et entendre le début de l'altercation, et semble-t-il que dès que Gelman est arrivé, la dispute a éclaté. Et c'est la pauvre Yelena qui fera la macabre découverte de sa mère mutilée. Personne ne devrait avoir à vivre ça ou affronter ça. Ça doit être assez traumatisant. Avant d'arriver chez elle, Yelena avait été mise au courant par une connaissance que Gelman avait tué son beau-père, mais elle n'a pas fait le lien que c'était Gelman qui avait assassiné sa mère aussi. Elle n'a pas eu le temps de toute façon, car une fois sur le perron dehors à l'extérieur, elle a réussi à communiquer avec les secours, mais ensuite elle a vu Gelman arriver, se garer, sortir de sa voiture et se diriger vers elle. Et c'est à ce moment que Yelena a compris que c'était Gelman qui était derrière tout ça. Elle a tenté de prendre la fuite chez un voisin, mais Gelman était plus rapide et a maîtrisé le voisin et a commencé à attaquer la pauvre Yelena à coups de couteau. Tout ça à l'extérieur devant une maison en plein après-midi. Après avoir attaqué Yelena, Gelman quitta les lieux et revena quelques instants plus tard pour être sûr de bien l'avoir achevé et continua sa besogne et lui donna quelques coups de couteau de plus. Yelena ne survivra pas à ses blessures, qui en comptaient plus d'une dizaine. Gelman prit la fuite à pied. Je crois que j'ai oublié de dire c'est à quelle heure que la mort de Yelena est arrivée. C'est arrivé aux alentours de 4h l'après-midi, donc 6h entre la mort de sa mère et la mort de Yelena. Quand Maxime Gelman a juste voyagé entre des lieux qu'il doutait qu'Yelena pouvait se trouver, c'est pour ça qu'il est arrivé très peu de temps après elle quand il est arrivé à son domicile. Très peu de temps après avoir abattu froidement Yelena, Gelman a intercepté un véhicule de marque Pontiac Bonneville. Le propriétaire qui était au volant de sa voiture, M. Di Crescento, qui était alors âgé de 60 ans. Gelman l'a attaqué à coups de couteau pour ensuite prendre la fuite avec son véhicule. M. Di Crescento devait être vraiment sous le choc car, d'après beaucoup de témoins, ils l'ont vu marcher un pâté de maison avant de demander de l'aide et dire qu'il allait saigner en mort. Mais lui a eu de la chance et son état fut stabilisé et il survécut à ses blessures. Environ 2 minutes se sont écoulées après le vol de la voiture Pontiac. Et pendant que Gelman était au volant et prend la fuite, il heurte un piéton, M. Steve Tannenbaum, qui lui aussi est âgé de 60 ans. Il fut transporté d'urgence aux soins intensifs, mais malheureusement, il succomba à ses blessures. C'est aux alentours de 9h du soir que la voiture de Marc Pontiac sera retrouvée près d'une entrée de métro dans la zone Flatbush. Gelman se déplace maintenant à pied et peut se diriger dans n'importe quelle direction. Et ce, sans que les policiers n'aient aucune idée d'où il pourrait se trouver. Personne n'est en sécurité tant que Gelman courait les rues. Et maintenant qu'il n'avait plus la moindre idée d'où il pouvait se trouver, les recherches s'intensifièrent et maintenant était à la grandeur de la ville de New York. Gelman était maintenant très dur à trouver car il utilisait ses vieilles ressources du temps où il était graffiteur et il exploitait maintenant les réseaux souterrains de tunnels pour se déplacer aisément sans risquer de se faire repérer par les hélicoptères ou les policiers. Rendu à ce stade dans l'histoire, pas mal toutes les forces de l'ordre étaient à sa recherche. Plusieurs heures s'écoulent et nous sommes maintenant le 12 février aux petites heures du matin. Aux alentours de 00h55, un chauffeur de taxi du nom de Fitz Fullerton, qui était alors âgé de 55 ans, stoppera son véhicule pour prendre un client en bordure de la route dans le quartier Bedford-Stuyvesant. Ça, c'est plus au nord de New York. Et malheureusement pour Fullerton, le passager qu'il s'apprêtait à prendre, c'était nul autre que Gelman. Une fois à l'intérieur du taxi, Gelman ne perdit pas une seconde et sortit sa lame pour l'appuyer au cou de Fullerton. Fullerton, en mode survie et sans réfléchir, agrippa la lame avec sa main, ce qui lui valut de sérieuses blessures. Mais ce geste irréfléchi lui a sûrement sauvé la vie. Une bagarre s'ensuivit et Fullerton fut blessé à plusieurs reprises par Gelman. Fullerton a survécu à son affrontement avec Gelman, mais ses blessures lui ont valu plus d'une trentaine de points de suture. Monsieur Fullerton fut très déçu du service des forces de l'ordre, car à l'arrivée des policiers, au lieu de le questionner sur le tueur fou, ils ont tourné leur effort sur une vieille amende qu'il n'avait pas payée, qu'il avait reçue 10 ans auparavant. Ils ont décidé de menotter Monsieur Fullerton à son lit d'hôpital. Pauvre gars, il vient d'être victime d'une attaque violente, il est blessé au visage, à la tête et aux mains, et il se fait menotter par la police pour une vieille amende de v'là 10 ans. Et avec les blessures qu'il avait subies, je pense pas qu'il avait le goût de prendre ses jambes à son cou pour se sauver pour une niaiserie du genre. Suite aux événements, Monsieur Fullerton a déclaré qu'il était très heureux d'être en vie, que ses blessures et ses coupures allaient guérir pas mal plus vite que sa confiance à la police allait être restaurée. Et mes chers auditeurs, c'est pas la dernière fois dans cette histoire que je vais vous parler du manque de professionnalisme des policiers. La suite est encore plus aberrante. Donc, après avoir tenté de voler la voiture taxi de M. Fullerton, ça sans succès, donc Gelman a pris la fuite à pied. 10 minutes plus tard, Gelman s'en prend alors à Sheldon Pottinger pour lui voler son véhicule de marque Nissan Maxima. Sheldon fut lui aussi grièvement blessé par Gelman, mais survécut à ses blessures. Ensuite, Gelman, on n'entend plus parler de lui pendant 6-7 heures, sûrement qu'il retournait se cacher dans les tunnels de la ville et les réseaux souterrains. Donc, plusieurs heures s'écoulent, 6-7 heures, on est rendu 8 heures le matin. C'est une passagère utilisant le train de la ligne numéro 1 qui alertera les policiers après avoir reconnu Gelman. Et il n'a pas été trop difficile à reconnaître car il aurait frappé sur le journal qu'elle lisait bien tranquillement et il lui aurait alors dit avec ses yeux de psycho « Alors, est-ce que tu crois ce qui est écrit sur moi? » Dès qu'elle put, elle quitta le transport en commun pour contacter les policiers. Elle était près de la 96e rue à ce moment. Alors que le train arrive à une station près de la 34e rue, Gelman en profitera pour transférer de ligne de train. Cette fois, il sera sur la ligne numéro 3. D'après plusieurs témoignages, dès qu'il est entré dans le wagon, les gens ont commencé à être inquiets. D'après moi, avec sa tête de fou, puis sûrement que les gens commençaient à le reconnaître. Beaucoup le décrivaient comme quelqu'un qui semblait menaçant. Il avait une démarche très inquiétante. C'était clair que quelque chose clochait. Ensuite, il s'est dirigé vers la cabine des moteurs et a frappé à la porte en criant qu'il était un policier de le laisser entrer. Mais voyant que sa ruse ne fonctionnait pas, il se tourna vers un des passagers. Joe Lozito, âgé de 40 ans, père de deux enfants, qui s'en allait travailler bien tranquillement ce matin-là. C'est ça, Gentleman s'est retourné, il l'a regardé, il a dit « Maintenant, tu vas mourir ». Pour ensuite s'élancer vers lui, sortir son couteau et l'attaquer à plusieurs reprises. Joe Lozito fut blessé au visage, à la tête et aux mains. Mais par chance, deux officiers de police se trouvaient non loin de là et ont pu très vite intervenir et mettre Gentleman en état d'arrestation avant qu'il n'achève Joe Lozito. Et oui, finalement, mes chers auditeurs, après 28 heures de terreur dans la ville, de chaos, 4 morts, plusieurs blessés, la ville pouvait enfin se reposer et dormir sur ses deux oreilles grâce au travail acharné de deux policiers, deux vrais héros qui ont risqué leur vie pour mettre fin à cette tuerie gratuite. Sortez les médailles pour l'officier Howell et l'officier Taylor. Ouais, ça c'est les deux officiers qui ont essayé de prendre le mérite de l'arrestation de Gentleman quand c'est Joe Lozito qui l'a maîtrisé. Et il y a plusieurs témoins pour corroborer la version de Joe Lozito. Et cette version-là ressemble beaucoup à celle que je vous ai contée, sauf qu'au moment où Joe Lozito s'est fait poignarder, empli d'adrénaline, il a réussi à maîtriser Gentleman en lui faisant une prise de soumission à l'aide de ses deux jambes et de le désarmer. Et pendant que Joe Lozito se faisait lacérer à coups de lame par Gentleman, l'officier Howell et l'officier Taylor étaient eux en sécurité dans le wagon des moteurs. Les deux, au lieu d'intervenir et d'essayer d'aider Lozito, ont attendu bien sagement derrière la porte que Joe Lozito désarme Gentleman. Et après, ils ont déverrouillé la porte et sont allés mettre Gentleman en état d'arrestation. Je sais pas trop c'est à quoi qu'ils ont pensé les deux officiers. Il y avait plein de témoins. C'est sûr que la vérité allait se savoir. C'est sûr que ça allait sûrement faire une belle promotion sur le chèque de paye. Peut-être qu'ils pensaient que Joe Lozito allait mourir et que personne n'allait parler, je sais pas trop. Mais par la suite, ça a été prouvé que les deux officiers avaient menti. Joe Lozito, lui, tentera d'emmener les corps policiers en cour pour un dédommagement. Mais ça donne à rien, car les policiers, semble-t-il, n'étaient pas dans l'obligation de l'aider. Demandez-moi pas la logique de tout ça, je la comprends pas. Je croyais que les policiers étaient là pour protéger et servir. Si ça, c'est pas protéger, je me demande c'est quoi. Ou ce que je veux en venir, c'est pas les policiers qui l'ont protégé, mais 20 ans à regarder et à être un partisan des combats extrêmes. Monsieur Lozito, sans jamais avoir vraiment pratiqué le combat extrême, a appris le mouvement qu'il a fait à Gentleman en regardant des matchs. Donc revenons à Maxime Gellman, Mad Max, qui est en état d'arrestation. Il fut emmené au centre d'incarcération le plus proche et fouillé. Sur lui, il avait deux couteaux ainsi que du crack. Pendant son interrogatoire, les enquêteurs n'ont pas eu à presser le citron bien fort. Gentleman a avoué tout ce qu'il avait fait, sans aucun remords, sans émotion, à part peut-être de la fierté. Pendant sa déposition, il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait envie de tuer depuis qu'il était jeune. Il a aussi ajouté, je cite,
« Tout est OK. Je vais vaincre tout ça. » Je vais être interné dans une institution psychiatrique pendant quelques années et ensuite je serai libéré et j'arpenterai encore les rues.
Il a aussi ajouté que pendant les crimes, il était sous l'effet du PCP et de la cocaïne. Environ un an après les événements, Gentleman a donné une entrevue pour ABC Dateline. Je sais pas s'il est juste perdu dans son monde de mythomanie ou il essaie juste d'avoir l'air d'avoir des problèmes psychiatriques, histoire de faker la folie. La majorité de l'entrevue semble un ramassis de mensonges, c'est ça. Gentleman y prétend descendre d'une famille de gangsters, de père en fils, qu'avant d'être incarcéré, c'était un gros vendeur de cocaïne, qui était rendu dans la cour des grands et qui faisait des milliers de dollars par semaine. Pendant l'entrevue, il a déclaré aussi qu'un soir, alors qu'il revenait d'acheter un kilo de cocaïne, rien de moins, il est en voiture sur le chemin du retour et il devait traverser le pont de Brooklyn. C'est une fois sur le pont qu'il fut pris d'une sensation très étrange. Il est venu à l'évidence que pas seulement une voiture, mais toutes les voitures le suivaient. Et que tous ses véhicules semblaient avoir des plaques officielles du gouvernement. Et semble-t-il que son cellulaire commençait à fonctionner très bizarrement. D'après lui, les textes se mélangeaient et l'appareil a appelé à plusieurs reprises ses contacts au hasard. Et dû à ces signes qui ne trompaient pas, Gellman se mit en tête qu'il était suivi par les fédéraux. Sans perdre de temps, il ouvrit une des fenêtres de la voiture et balançait le kilo de cocaïne par-dessus bord. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs témoins qui ont dit que c'était juste un petit revendeur, puis il faisait ça pour payer sa consommation. Mais j'aime ça quand même imaginer que cette histoire-là est vraie, puis qu'il doit se trouver vraiment marron d'avoir pitché un kilo de cocaïne par la fenêtre de sa voiture, alors qu'il savait imaginer que les fédéraux le suivaient. Peut-être que cette histoire-là est pas loin de la vérité, mais si c'est le cas, ça devait être juste un petit fond de sac avec quelques poussières dedans. C'est ça, l'entrevue continue. Si on l'écoute, il est propriétaire de plusieurs condos. C'est un vrai baron de la drogue, je vous dis. Tellement que pour quitter New York dans sa crise paranoïaque, il était à pied. Il n'y a même pas de char. Il empruntait la Lexus à sa maman. Emprunter, c'est un mauvais terme. Il a volé la Lexus à sa mère, je veux dire. Je serais même pas surpris d'apprendre qu'il restait encore chez sa mère. Pourquoi qu'il allait chercher les effets personnels puis son passeport chez sa mère? Ensuite, il a déclaré que Yelena était juste un associé. Je cite.
Je veux seulement raconter ma version des faits. C'était pas ma petite amie. Elle avait seulement un joli visage, mais elle était bien trop maigre pour moi. Je l'ai jamais harcelée ou traquée. Elle savait combien je faisais d'argent et elle voulait monter un plan pour me voler. J'ai tué sa mère simplement parce que je voulais tuer les gens qui comptaient pour elle.
Ensuite, ce qu'il déclare, ça contredit ce qu'il a dit aux policiers au moment de son arrestation. Cette fois, il prétend qu'il était agent au moment des faits et qu'il a prévu de tuer beaucoup plus de monde que juste son beau-père. Son super plan de délusionner ce matin-là était de tuer son beau-père en pensant que sa mère allait le couvrir. Après, il aurait pris l'avion pour disparaître en République dominicaine. Il va sans dire que Gelman a été particulièrement déçu que sa mère appelle les forces de l'ordre. Ça faisait pas partie de son petit plan. Un an après les événements, il est encore fâché après sa mère parce qu'elle avait appelé la police. Sérieux, vous êtes une totale vidange de moron sale en vouloir à sa pauvre mère qui doit être traumatisée pour le restant de sa vie. Ah oui, j'allais oublier le plus important de l'entrevue. Il s'est vanté qu'il avait beaucoup plus de sang sur les mains avant les événements du 11 février. Qu'il avait déjà 6 cadavres à son actif avant ce dossier. La première fois qu'il l'aurait tué, semble-t-il, il était âgé de 18 ans. Il aurait frappé 2 personnes avec sa voiture. Pour être sûr des achevés, il aurait fait marche arrière pour les repercuter une deuxième fois. Sa troisième et sa quatrième victime seraient des vendeurs de drogue qui l'auraient pas pris au sérieux ou quelque chose du genre. Puis, pour la cinquième et sixième victime, on n'a pas de détails vraiment. Mais anyway, c'est juste un paquet de conneries tout ça. Ensuite est venu le temps des procédures judiciaires. Il a plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès. Bon, il s'est vu chargé pour 4 meurtres, des tentatives de meurtre, des voies de fait avec lésions et vol d'automobile. Malgré sa belle prestation dans l'entrevue télévisée et le fait qu'il ait été suivi par une panoplie de spécialistes, et sa tactique de passer pour un fou n'a pas fonctionné. Pendant les procédures judiciaires, Gelman a eu des propos assez dégueulasses qui démontrent pleinement qu'il n'a aucun remords pour les actes qu'il a commis et il rejette la responsabilité sur les autres. Et la raison remplie de logique qu'il donne, c'est qu'il n'y aurait pas eu autant de morts si les fédéraux, au lieu de le suivre sans rien faire, l'auraient arrêté avant. Parce que lui, dans sa tête, il pense encore que les fédéraux le suivaient. Son avocat tentera de calmer les choses en prétendant que des mots comme ça ne pouvaient pas sortir de la bouche de quelqu'un qui était sain et en santé. Mais étaient visiblement les propos de quelqu'un qui avait l'esprit malade. Donc c'est ça, Gelman, tout au long des procédures judiciaires, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, se faire détester. Il a montré aucun remords, il souriait, il hurlait aux proches des victimes, il prenait vraiment pas les choses au sérieux, il suivait pas les règles. Il a même fait une demande de mariage à Kim Kardashian, mais sa petite prestation n'a pas marché avec M. le juge. Le juge Vincent dit, Guidice, lui a alors déclaré, je cite, « On a un proverbe qui dit « fou comme un renard ». Et je crois que vous avez donné une très bonne performance. Avant de rendre sa sentence, le juge l'a traité de prédateur, de menteur pathologique, violent, de sociopathe, que de belles qualités. En tout, Gelman s'est vu imposer une peine de 225 années d'emprisonnement. À moins qu'il s'échappe, c'est plus que probable qu'il va finir ses jours en prison. Et voilà, ça tire à la fin de ce dossier. J'espère que vous avez apprécié. Je veux vous remercier d'avoir pris de votre temps pour écouter l'épisode. C'est ça, si vous voulez aider le podcast et m'encourager, parlez-en à vos connaissances ou partagez sur les réseaux sociaux. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et moi, ça m'encourage et ça donne la visibilité au podcast. J'ai remarqué aussi que sur certaines plateformes, vous pouvez laisser des messages vocaux, donc gênez-vous pas. Si j'en ai quelques-uns, je les publierai peut-être à la fin d'un épisode. Merci encore et attention à vous, chers auditeurs. Barrez votre porte et fermez vos volets.
De nombreuses recherches qui avaient été effectuées. Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.